Radio Barque 20e, alors nous voici à notre troisième partie. Jacques Michaud, bonjour, bonjour. Vous êtes notamment professionnellement professeur du droit de l'histoire,
droit
romain.
Oui.
Et c'est, on va le dire tout de suite, c'est surtout à ce titre que vous êtes là aujourd'hui, puisqu'on va parler essentiellement du musée de la romanité.
Exactement.
Vous êtes aussi, du fait que vous êtes historien responsable depuis fort longtemps de la commission archéologique et littéraire de Narbonne.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mais surtout, c'est ce musée de la romanité dont on parle beaucoup, qui est un des gros projets non seulement de Narbonne, mais de la Narbonnaise et de la région aujourd'hui.
Absolument.
Et alors, on va commencer par le commencement. On va faire un peu d'histoire. Expliquez-nous, puisque vous avez été parmi les gens qui ont... peut-être les concepteurs, en tout cas parmi les gens qui les premiers ont senti que ce musée avait des chances d'exister en côtoyant notamment Georges Frêche. Est-ce que vous avez des souvenirs de la genèse de ce projet ?
La genèse de ce projet, c'est un dimanche d'octobre de l'année 71, après-midi, il pleuvait.
Ah oui, c'est pas d'hier.
Ce n'est pas d'hier. Georges Frêche voulait visiter Narbonne et donc... j'étais assistant, il venait d'être professeur, il venait d'être nommé, et nous avons passé une journée à Narbonne, et je me souviens de ses exclamations lorsque nous sommes rentrés dans le musée lapidaire.
Ah, oui.
Voilà, il m'a dit, mais vous êtes fou de laisser ça comme ça, moi si j'étais quelqu'un, on te ferait un musée terrible. Et plus tard, il a conservé cette idée, et quand il a été président de région, il a dit, bon, on va le faire ce musée. Je lui ai dit, signe vite, dépêche-toi de signer. Et voilà, et il est allé trouver à ce moment-là le maire Jacques Bascou, et il a lancé le projet. Voilà comment l'affaire est née. Georges Frêche avait une grande admiration pour l'histoire de Narbonne, ça le passionnait.
Alors justement, pour expliquer pour les gens qui ne sont pas tout à fait au fait, justement, dans ce musée, la Mourguée, dans cette église, la Mourguée, on a stocké des pierres qui sont des pierres romaines, qui ont connu plein de vicissitudes, puisqu'elles font partie des monuments qui avaient été démolis. Puis, je crois, la plupart avaient été intégrés dans les remparts à l'époque de François Ier, quand Narbonne était ville garnison. Et puis, lors de la destruction des remparts dans les années 1870-80, on les a récupérés. Puis, qu'en faire? On ne pouvait pas les jeter, quand même. On les a stockés, là, alignés, dans cette église, la Mourguée. C'est ça, Jacques Michaud?
C'est tout à fait ça. L'histoire de ces pierres est très émouvante, parce qu'en fait, c'est l'histoire de Narbonne à travers elle. Les monuments de Narbonne, les monuments romains ont été démolis, réemployés, parce qu'il n'y avait pas de carrière de pierre très proche. Et au fur et à mesure des difficultés, on les réemployait dans les remparts. Le destin que tu viens de raconter est exact. Et le mérite d'avoir sauvé ces pierres, c'est la commission archéologique et littéraire de Narbonne, fondée quelques années auparavant, en 1833, à la demande des Narbonnais, pour sauver le patrimoine. Ils se sont battus comme des lions pour récupérer toutes ces pierres. Et ils ont obtenu, après bien des difficultés, la concession de l'église de Notre-Dame de la Mourguée, pour y entreposer le tout sous une forme évidemment très entassée, un peu romantique d'ailleurs, mais au moins tout ça-ci a été sauvé. Et la perspective de les voir revenir maintenant au jour, présentées avec beaucoup d'élégance, c'est quand même un espoir pour Narbonne. Elles suivent ces pierres, l'histoire de Narbonne.
Oui, alors des pierres qui sont là depuis largement plus d'un siècle.
Ah oui, dans les années, ça finit en 1884 à peu près, le transfert, ça a été très long, très délicat. Et puis il a fallu surveiller, et puis beaucoup se sont perdus. Mais enfin, l'ensemble était là depuis longtemps. Et c'est le deuxième fonds lapidaire antique après Rome.
Après Rome, paraît-il, oui.
Oui, oui.
Et alors, Jacques Michaud, lorsque Georges Frêche vous redit, alors ça c'est dans les années 2000, donc 30 ans plus tard, lorsqu'il vous dit, ça y est, ce musée, maintenant j'ai un certain pouvoir, j'ai la région, je vais le faire. Est-ce que vous y croyez à ce moment-là?
Oui, bien sûr, parce que ce musée est une nécessité dans la ligne historique de Narbonne. Je crois qu'il ne faut pas voir l'histoire à l'aune des événements uniquement contemporains. Nous avons besoin d'avoir pour l'histoire un recul dans le passé et une projection dans l'avenir. Alors, ce musée s'inscrit dans la logique et le devenir de Narbonne, parce qu'il est l'identité de Narbonne. C'est Narbonne antique qui va renaître. C'est un musée de la Renaissance. Ce n'est pas un musée d'érudits, comme on peut le faire ailleurs. Ce ne sont pas des pots entassés dans des vitrines. C'est un musée de la Renaissance, de la signification. Narbo Marcius. Le nom de Narbonne est très important. Et là, l'aspect romain de Narbonne, dont tout le monde déplorait qu'il n'existât plus, qu'il avait disparu, mais l'aspect romain de Narbonne va renaître. Et il renaît dans un contexte actuel extrêmement important. Alors ce contexte actuel, c'est quoi? Eh bien, c'est que tout d'un coup, tout converge. C'est rarissime, une histoire pareille. C'est-à-dire que vous avez le TGV qui va arriver. C'est la renaissance du carrefour. Le port de la Nouvelle, qui est le port de Narbonne? c'est un des gros qui conduisent à l'étang de Bâche, n'est-ce pas? Le port de Narbonne, qui renaît avec le port de la Nautique. La redécouverte archéologique du port antique qui nous liait à Ostie, qui était un des plus grands de l'Empire.
Oui, là, on va y revenir parce que des fouilles sont révélées actuellement.
Absolument, absolument. Alors tout ceci, ça correspond à un devenir. La grande région qui nous met au carrefour des voies d'Aquitaine et de la voie dormicienne, mais c'est extraordinaire. Avec le TGV, nous allons être reliés à Séville, et puis de l'autre côté, dans le nord. Charles Quint n'a pas pu arriver à franchir la frontière du Languedoc, maintenant, ça y est, tout ceci est très important, et je crois que nous arrivons en plein dans la modernité, dans le futur. Ce musée est un symbole. Quand on pense que les gares TGV amènent dans une ville des foules considérables, demandez à Aix-en-Provence, demandez à Valence, demandez partout, les gens qui vont arriver vont pouvoir voir la côte et Narbonne ouverte sur la Méditerranée.
Alors justement, ce musée, dans une ville, Narbonne-la-Romaine, en fait, on le sait, Narbonne-la-Romaine, il y a pratiquement plus rien à part un silo souterrain, c'est à peu près tout ce qui reste d'entier.
C'est cela. Et Narbonne antique, capitale de la Gaule, la première capitale de la Gaule, capitale de la province, qui a donné son nom à la province, et même à la grande province, n'est-ce pas, qu'on appelle la Transalpine, ça allait du lac Léman aux Pyrénées. Narbonne, tout d'un coup, retrouve sa signification. L'absence de reste nous étiolait, en quelque sorte. Et maintenant, voilà que ça va ressortir. Et ça, c'est très important. Et au point de vue économique, évidemment, et c'est incontestable. Ça, on ne peut pas refuser ça.
Alors l'avantage de ce musée va être que ces fameuses pierres qui sont stockées de façon plus ou moins difficile et laborieuse vont être exposées de façon pédagogique et disons même amusante. Enfin, si j'ai bien compris ce que nous ont fait les architectes de l'équipe Norman Foster.
Voilà. Alors on va voir renaître la monumentalité de Narbonne. C'est-à-dire que toutes ces pierres vont être mises en forme de murs, de murs. Pédagogique sur une centaine de mètres, c'est très long, et les manques seront complétés en trois dimensions. Et on va voir quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement éclairé, avec une ambiance de rempart, et puis un petit fossé qui permettra de descendre, de les regarder d'en dessous, et ça va être vraiment la renaissance de la Narbonne monumentale. Narbonne était une ville très monumentale, puisque c'était la capitale de la provincia, elle avait des monuments de marbre, alors que Nîmes n'en avait que de pierre, parce qu'elle était la capitale. Le Capitole de Narbonne était le plus grand de la Gaule. Et tout ceci, c'est une on va le revoir naître, on va le voir réapparaître et suggérer profondément avec les méthodes contemporaines. Et là, il y a des projets magnifiques.
Et alors, donc, il y a ce projet qui est là. Certains en doutent encore.
Oui.
Certains en doutent à leur façon. Certains polémiquent dessus. Donc, on va... aujourd'hui, tant que le musée n'existe pas entièrement, et puis lorsqu'il existera, il faudra qu'il soit géré. Donc, il y a une certaine polémique, notamment entre la région et l'agglomération... le Grand Narbonne, qui doit plus tard gérer ce musée, et la ville de Narbonne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, le maire de Narbonne a décidé de ne plus vouloir gérer, on va dire, prendre part financièrement à la gestion de ce musée.
Alors, je ne viendrai pas sur ce terrain de la polémique, mais il est normal que quand il y a un grand projet, il y a les pour, il y a les contre. Il y a des gens que ça révulse, d'autres à qui ça plaît. Chacun a le droit de penser comme il veut. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on rentrerait dans des conflits narbonnais qui n'ont pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est l'avenir.
Oui, qui seraient politiciens, qui n'ont rien à voir avec ce musée.
Ça n'a pas d'intérêt. Laissons chacun s'exprimer. Et puis, que le meilleur gagne. Mais surtout, je crois qu'il faut regarder l'avenir. Et maintenant, en parler à la jeunesse. Moi, je voudrais justement m'adresser à la jeunesse. Parce qu'il faut voir l'avenir de Narbonne. Qu'est-ce qu'on va vous laisser, les jeunes, comme bâtiment, comme construction, comme identité? On va vous laisser ce musée. Ce musée qui est très identifiant. Nous sommes dans une époque où on ne sait plus très bien ce que l'on est. Tout le monde parle de quête d'identité. En voilà une. Et puis aussi, cette grande ouverture sur la Méditerranée. Le monde romain, c'est la Méditerranée. Le lac de paix, nous y aspirons tous. C'est pas encore demain que ça se fera. Mais ce musée nous place dans le concert méditerranéen que nous avions abandonné. Ça, ceci est très important. Et puis aussi, ça nous rappelle que nous sommes avant tout des Latins. Notre véritable racine, c'est la latinité. Et la romanité, c'est une civilisation qui a le sens de l'universel, en même temps que l'enracinement. La ville aux sept collines, la petite ville paysanne de Rome aux sept collines, est devenue la capitale d'un empire. Elle n'a pas perdu pour autant ses racines, mais qu'est-ce qu'elle a avalé comme diverses civilisations? Que de synthèse. Et ça, je crois que ça, c'est l'avenir. Et Narbonne peut jouer son rôle dans ce grand concert qui doit se préparer pour l'avenir. Les jeunes, ils retrouveront ça. ça restera. On ne sera pas obligé de le démolir. Et je pense que c'est important. Voilà, c'est une question d'identité, et c'est à eux qu'il faut s'adresser pour que ce musée se fasse. Alors les querelles sont humaines, c'est normal, c'est pas grave. Je crois qu'il faut dépasser ça. Il faut voir loin.
Oui. Alors à propos de date, vous parlez dans le futur, puisque de toute façon, même si la première pierre symboliquement a été posée, ce musée n'existe toujours pas. Quand est-ce qu'il est prévu de façon crédible?
Eh bien écoutez, les Narbonnais n'ont qu'à se promener, n'est-ce pas, sur le site des musées, ils verront les bulldozers.
Des travaux de terrassement.
Un grand travaux de terrassement. Les murs vont sortir d'ici quelques mois. D'après ce que j'ai pu voir, d'après les travaux que je puis suivre de mon côté, eh bien les murs vont sortir bientôt, on va les voir apparaître. Voilà, et je crois que c'est bien. Et ceci, d'ailleurs, ceci va apporter beaucoup. Mais la région va organiser, je crois, toute une information sur le devenir des travaux au fur et à mesure,
sur le
déroulement.
Du chantier.
Oui, tout à fait.
Oui. Et alors, en ce qui concerne donc les fouilles, alors vous êtes, Jacques Michaud, il faut le rappeler, président de la commission archéologique depuis pas mal d'années, et vous êtes en ce moment, parmi les autres actions et les publications que vous faites, sur des révélations de fouilles romaines, bien entendu, qui vont tout à fait dans le sens du développement de ce musée.
Tout à fait, et tout à fait. D'abord, je suis très ému de voir que jamais les archéologues n'ont été aussi utiles, je leur dis souvent, à l'époque contemporaine. Ils sont utiles à la vie économique, parce qu'ils vont dans le sens du développement que je signalais tout à l'heure. Alors, bien sûr, les fouilles sont fantastiques, parce qu'elles nous révèlent quoi? Elles nous révèlent que le port de Narbonne était certainement l'un des plus grands de l'Empire. Ce que les auteurs anciens disaient, mais qu'on ne pouvait pas vérifier. Et on s'aperçoit que les installations portuaires, c'est en fait presque tous les temps. Ça commence avec des choses magnifiques qui sont agressantes. Ça se développe sur le site de la nautique où on a découvert un vivier romain qui est le plus grand de l'Empire, avant celui de la mer de Tibère qui se trouve en Yougoslavie, dans l'ex-Yougoslavie. Et puis, on aperçoit que sur les îles, il y a aussi des installations portuaires. Bref, c'est un ensemble absolument
unique. Quand vous dites oui, tous les temps, c'était la lagune de l'époque.
C'était la lagune de l'époque. Enfin, on est en train de faire des découvertes magnifiques, n'est-ce pas? Et là, la petite équipe qui, sous la direction de Corinne Sanchez, travaille depuis plusieurs années, est absolument émouvante. C'est magnifique. Et alors, ça attire des chercheurs de partout. Je dois dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent travailler. Alors, je vais vous dire qu'il y a un véritable chantier école qui se développe tant sur le chantier de fouilles que pour l'étude des pierres qui vont aller dans le musée. Ça amène des jeunes qui arrivent de toutes parts. J'ai vu une étudiante de Cadix, des gens de l'école du Louvre, des universités de Paris-Sorbonne, de Lorraine. Il y a des gens pour le musée qui viennent travailler de l'école de restauration de Neuchâtel, de Venise, avec des étudiants de l'Istituto Veneto per i Beni Culturali qui viennent. C'est vous dire que immédiatement le nom de Narbonne attire et tout ce monde vient travailler. Les uns sur les chantiers de fouilles et les autres dans le cadre du musée autour de l'équipe de conservation dirigée par Ambroise Lassalle et Caroline Papin. Tout ce monde est parti. L'école française de Rome est dans le coup. Madame Virlouvet est venue nous visiter l'année dernière. Ça a été un grand moment d'enthousiasme. Nous sommes sur le coup de la ville de Rome. Et puis la ville de Rome, j'en parle, nous avons, vous le savez, une vigne à Rome sur le Pincio. Et tout ceci, l'ambassade de France auprès des Saint-Siens joue le rôle, nous aide beaucoup. Et tout ceci, c'est on retrouve notre mère romaine et on retrouve notre place dans la Méditerranée. Je crois que c'est important. Et je dois vous signaler aussi que nous avons des sollicitations venues de l'Espagne. Il y a une association des villes antiques de l'Occident méditerranéen qui part de Mérida, qui passe à Alcalá de Henares, à Tolède, à Tarragone. Tout ceci veut un jour rejoindre le musée de Narbonne. Donc le nom de Narbonne, qui est quand même connu à l'extérieur, va rayonner plus grand. Et vous imaginez les retombées économiques.
Et alors, ces découvertes issues des fouilles, la plupart vont être peut-être à mesure intégrées dans le nouveau musée. Ça va peut-être obliger d'ailleurs à revoir un peu la conception du musée.
Voilà, et le musée sera évolutif. Alors, c'est vrai, ce que vous dites est profondément exact. Le musée va se nourrir de plus en plus de ce qui se découvre sur le chantier. Et ce qui se découvre, c'est un bateau chargé de toute sa cargaison, etc., etc. Il y a beaucoup de choses et ça va venir nourrir le musée. Et alors là, il y a quelque chose qui est frappant au point de vue allégorique et symbolique. Ce canal de la Robine, Montlaçon, aux eaux molles, c'est quand même le bras de l'Aude qui nous mettait encore en lien avec la Méditerranée. Et tout le long de tout le long de ce bras de l'Aude, qui est le canal de la Robine aujourd'hui, eh bien, il y a le musée de la Romanité. Il va y avoir un peu plus loin la médiathèque, vous voyez, etc. Et tous les matériaux qui vont arriver viennent par ce bras de l'Aude et ils vont enrichir le musée. Il y a une symbolique là. Il y a un axe culturel absolument extraordinaire. Et je dois dire que, j'y réfléchis maintenant, quand le corps est revenu de Monseigneur Dillon, l'archevêque de Narbonne, qui avait créé le canal de jonction à la demande des Narbonnais.
Absolument, oui.
Eh bien, le corps a suivi le cheminement du canal. Était-il prémonitoire? Je ne sais pas.
Oui,
mais
de l'ancienne Attaxe.
Voilà,
de l'ancienne Attaxe.
Et je pense qu'il y a quelque chose de très riche. Et pour notre ville, c'est un but. Nous avons, chaque pays, chaque nation, chaque groupe a besoin d'avoir un idéal, quelque chose vers quoi on tend. Il y a une part romantique, mais il n'empêche que c'est important et que si on n'a pas ça, on n'existe pas. Voilà, c'est ça qu'il faut proposer à la jeunesse. Je reviens à la jeunesse de Narbonne, qui est concernée.
En conclusion, Jacques Michaud, le choix de l'architecte, alors ça c'était la politique de Georges Frêche, d'aller chercher des grands noms prestigieux pour, d'une part, avoir un joli bâtiment, mais aussi un nom prestigieux qui rayonne et qui va contribuer à l'attrait.
Oui, alors
Norman Foster.
Norman Foster a été retenu, il y a eu... Près de 50, je ne me rappelle plus très bien, mais j'ai participé au jury, il y a eu plus de 50 candidatures avec des dossiers considérables. On a dû dépouiller tout ça. Et finalement, c'est Foster qui l'a emporté. Et d'ailleurs, tous ces architectes extérieurs étaient venus sur Narbonne voir la ville, prendre conscience de la monumentalité de la ville avant de concevoir le projet. Alors, Foster nous a conçu quelque chose qui est sobre et fort, qui est sur une butte, un peu comme les bâtiments de Babylone, et qui va donc émerger près du théâtre. Et alors là, je crois que c'est important d'avoir ce grand nom. Il a quand même fait de grandes choses, on le sait, et notamment le viaduc de Millau. Là, il est moins audacieux pour Narbonne, mais tout de même, la conception est très intéressante. Et alors, nous nous trouvons près des éléments de la ville, près du théâtre, près du stade. C'est les éléments de la ville antique. Et encore tout autour, y a-t-il des choses à retrouver? Et un peu plus loin que le musée, nous avons le tombeau de l'évêque rustique qui meurt en 461 au moment où les Visigoths envahissent définitivement Narbonne.
Il faudra le refaire découvrir.
Ah oui, tout à fait.
Parce que les Narbonnais doivent l'ignorer.
Tout à fait. Et vous voyez, l'aspirateur en question a été anobli par le fait qu'on en a fait un musée d'art contemporain. Tout le monde va en bénéficier.
Ça, c'est une drôle d'ironie de l'histoire.
Ah, ça, c'est très amusant. Mais c'est finalement tout ça. Très sympathique, c'est pour ça que vous savez, il ne faut pas se crisper, il faut arriver à des choses. Puis je voudrais insister sur la vie économique. Les milieux économiques de Narbonne attendent ça. Je suis très très heureux de constater que lors de l'audience solennelle du tribunal de commerce, le président a fait allusion à l'espoir économique que représentait parmi d'autres éléments le musée de Narbonne. La viticulture s'en est emparée. Il fallait voir la joie des vignerons le jour où on a posé la première pierre. Le CIVL a participé, les vignerons font leur affaire. Et puis tous les autres milieux économiques sont intéressés, le bâtiment, etc., etc. Et ça aussi, on a calculé le nombre de visiteurs. Il y a une étude en cours.
Potentiel.
Il y a une étude en cours. On est dans une fourchette entre 100 et 300 000. Pour l'instant, ce n'est pas encore définitivement précisé, mais il y a une étude en cours. On suit ça d'une année après. Alors ça, c'est la région qui le fait. C'est une spécialité que je n'ai pas, mais que je suis de loin en loin. Et ça, c'est très important. Parce que on sait que ces grands musées-là, les jours de grandes expositions, amènent des foules considérables. Et nous, placés comme nous sommes près de l'autoroute. C'est près de la sortie de Narbonneuse. Tout ceci est une perspective. On ne peut pas louper cet avantage pour Narbonne. TGV, port, autoroute, mais tout y est.
Merci Jacques Michaud d'avoir un petit peu de faire rêver aussi les Narbonnais sur
s'il n'y a pas de rêve, on n'avance pas dans la vie.
Sur ce projet, sinon d'avoir évoqué de façon concrète également ce grand projet du musée de la Romanité, sur lequel évidemment nous reviendrons de temps en temps, puisqu'il faudra encore quelques années avant le projet n'aboutisse véritablement. Merci encore Jacques Michaud.
Merci aussi.
La semaine prochaine, eh bien, c'est un autre Jacques, c'est Jacques Bascou qui viendra, président de l'agglomération, qui viendra nous parler, alors peut-être du musée, mais de bien, bien d'autres choses, puisque on le sait aujourd'hui, les agglomérations, notamment le Grand Narbonne, représentent des pouvoirs très, très importants dans la vie quotidienne des citoyens. Merci encore, Jacques Michaud, et à la semaine prochaine.
À bientôt.